Chapitre 2. Dès que l'avion se posa sur le tarmac de l'aéroport international de Richmond, Roman appela Nevea. Elle décrocha la première sonnerie, sa voix aussi râpeuse que du papier de verre.
« Allô ?»«
C'est moi, » dit Roman.
« Ah, j'avais pas regardé l'écran. Je pensais que c'était l'hôpital. Il est quelle heure ?»«
21h40. » répondit Roman, après avoir consulté sa montre. « T'es à la maison ?»«
Ouais. »«
Dante aussi ?» Sa sœur émit une espèce de grognement.
« Je l'ai pas croisé depuis l'accident. Je sais pas où il est. La routine, quoi. »
Roman perçut de la rancœur dans ce dernier commentaire, mais il choisit de l'ignorer. Il savait que Nevea avait des raisons de lui en vouloir à lui aussi. Dante était simplement une cible plus facile. Car plus proche.
Je suis à l'aéroport, dit Roman. Je vais louer une voiture. Tu veux que je passe te chercher ou on se retrouve directement à l'hôpital?
Rome, c'est plus l'heure des visites.
Je vais le voir, Nev. Tu viens avec moi ou pas?
Nevea ne parla pas pendant quelques secondes, mais son silence était éloquent.
Alors c'est maintenant que tu t'inquiètes pour lui? Maintenant que tu choisis de débarquer en ville en roulant des mécaniques, les poches remplies de billets? Ça fait 5 ans que t'as pas mis les pieds ici. 5 ans, putain!
Mais les ondes ne relayèrent rien de tout cela et se contentèrent de diffuser un long soupir. Un soupir qui semblait la marque de fabrique de Nevea depuis la nuit des temps.
« Je te rejoins sur place. »
céda-t-elle. Roman quitta l'autoroute 64 à la sortie de Jefferson Run Center et se retrouva coincé derrière un camion qui projetait 2 panaches de fumée noire par les pots d'échappement verticaux situés de part et d'autre de la cabine. Son estomac se serra lorsqu'après avoir négocié le virage de la bretelle, il s'engagea sur Harper Street, au volant de sa berline de location. Il laissa derrière lui la gare routière abandonnée, franchit la première des 4 intersections que comptait cette partie de Jefferson Run et passa devant 2 magasins de vidéos pour adultes. Témoins anachroniques qui ne devaient leur survie qu'à la lubricité de certains habitants. Les 2 boutiques qui se faisaient face proposaient aussi des sextoys, des costumes divers et variés et des pilules érectiles de contrebande. Bref, autant de produits destinés à assouvir les plus bas instincts des clients.
« Tu n'es pas le mieux placé pour juger, » songea-t-il, en sentant les brûlures sur son dos se raviver au contact du siège de la voiture.
Il dépassa plusieurs restaurants mexicains, quelques bureaux d'encaissement de chèques, un dépôt-vente et d'innombrables entrepôts abandonnés, avant de prendre à gauche sur Lilyhammer Street et d'arriver en vue de Church's Chicken, un restaurant qui refusait obstinément de mettre la clé sous la porte et dont le personnel était autant réputé pour faire frire du poulet que pour distribuer des coups de poing. Roman s'arrêta à un stop. Sur sa gauche, il y avait l'hôpital. Mais s'il tournait à droite, il trouverait une zone artisanale au design froid, inspiré du brutalisme. Son père lui avait confié au téléphone que les entreprises qui occupaient ces cubes de béton faisaient toutes faillite, les unes après les autres. Heureusement, le crématorium des Carruthers était toujours debout. Monolithe de briques rouges qui se découpait fièrement devant l'horizon branlant des immeubles de la ville. Roman estimait que qualifier Jefferson Run de ville était aussi charitable pour l'ancien hameau fourmillant d'activité qu'insultant pour les véritables villes de l'État de Virginie. Lorsqu'il était en dernière année au lycée, il avait présenté un exposé sur le passé industriel glorieux de sa ville natale. Situé à la jonction de 2 rivières et de 2 autoroutes, cette localité avait été un vaste bassin d'emploi. De fait, la municipalité accueillait à une époque une immense usine automobile spécialisée dans les plaquettes de frein, plusieurs entrepôts de tabac, ainsi qu'une manufacture de bocaux en verre. Elle hébergeait aussi l'une des premières facultés noires de l'État, l'université de Prosser State. Les équipes sportives de cette dernière portaient le même nom que celles de son ancien lycée, les Grands Cerfs. Ce qui avait toujours amusé Roman. Alors qu'il remontait la rue bordée de lampadaires cassés et de bâtiments aux fenêtres condamnées qui menaient à l'hôpital, Roman songea que Jefferson Run, ou Jefferson la Ruine, ainsi que lui et ses copains se plaisait à la surnommer quand ils étaient jeunes, était comme un patient en état de mort cérébrale qui s'obstine à respirer. Il ne lui échappait pas que l'analogie pouvait aussi s'appliquer à son père, étendu sur un lit médicalisé, coincé dans les limbes qui séparent la vie de ce qui vient après. Sauf que Keith Carruthers n'était pas une ville exsangue, mais un homme qui avait sacrifié pour sa famille beaucoup plus qu'on ne pouvait le penser. Il n'était pas encore mort et Roman n'était pas prêt à le laisser partir. Nevea l'attendait à l'accueil de l'hôpital, les bras serrés autour de la poitrine. Elle avait la même carrure que leur père, fine mais musclée, avec une peau brun clair. Ses cheveux coupés très courts mettaient en valeur ses yeux larges et ses lèvres pleines. C'était une belle femme. Mais on pouvait voir les années se dessiner sur son visage. Des années à aider leur père à faire tourner le crématorium, pendant que Roman se faisait un nom parmi la bourgeoisie d'Atlanta, le nouveau paradis des Afro-Américains. Et que Dante... Eh bien, pendant que Dante jouait le rôle du petit prince. « Salut !» fit Roman. Nevea se tourna vers lui, et ses lèvres pincées esquissèrent, ce qui, avec un peu d'imagination, aurait pu s'apparenter à un sourire. Roman la prit dans ses bras, et après quelques instants, elle lui rendit son étreinte. Certes, il y avait de la rancœur entre eux, et certes, Roman ne s'était pas montré à la hauteur sur certains aspects, mais ils restaient frères et sœurs. Dante, Nevea et Roman étaient le produit de la même alchimie d'amour, de passion et de besoin qui avait opéré entre leurs parents. Et bien que pour ces derniers la magie ait fini par s'estomper, ce ne serait jamais le cas entre trois. Ils étaient issus du même ventre. Ce qu'ils savaient, personne d'autre ne pouvait le savoir ou le comprendre. Ils gardaient les secrets des uns et des autres. Comme cela fonctionne dans la plupart des fratries. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Roman. Nevea lui caressa le dos. Roman s'efforça de ne pas grimacer lorsque les mains de sa sœur effleurèrent les brûlures toutes fraîches et recula d'un pas. Il était au volant de sa camionnette quand un pick-up lui est rentré dedans du côté de la voie ferrée. Il a perdu le contrôle de son véhicule et un train l'a percuté. D'après le médecin, il a les deux hanches cassées, 9 côtes brisées et il souffre d'une hémorragie au cerveau. Même son petit doigt est fracturé, Rome, conclut Nevea en éclatant soudain en sanglots. Bon, allons-y. J'ai besoin de le voir. Il est 21h passées. On te laissera pas entrer. Je suis là pour voir mon père. Il est dans quelle chambre ? La 245, mais je te le dis, on va se faire recaler. Ignorant la remarque de sa sœur, Roman se dirigea vers un écriteau qui indiquait « Chambre 201-245 ». Alors qu'il dépassait le bureau des infirmières, une blonde au teint hâlé et aux cheveux ramenés en un chignon austère leva les yeux de son ordinateur et l'interpella. « Excusez-moi, monsieur, les heures de visite sont terminées. » Roman se tourna vers elle. « J'arrive tout juste d'Atlanta. Mon père est hospitalisé ici. Il est dans le coma. Je n'ai pas l'intention de faire des histoires, mais quoi qu'il arrive, je vais aller le voir. Si vous souhaitez prévenir la sécurité ou la police, libre à vous. Par contre, soyez assuré que ma sœur filmera l'intégralité de la scène avec son portable et que dès 8h demain matin, la vidéo sera sur tous les réseaux sociaux, tout ça parce que vous aurez voulu empêcher le fils d'un entrepreneur local de se rendre au chevet de son père. » Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr que cet établissement puisse encaisser ce genre de publicité. La femme vira au cramoisi. Bon, mais pas plus de 5 minutes, céda-t-elle d'une voix étranglée. Les néons émettaient une lueur bleuâtre, qui donnait l'impression que la chambre tout entière était immergée. Keith Carruthers était étendu sur le dos, les yeux clos. De sa bouche légèrement entr'ouverte, s'échappait un gros tube en plastique transparent. Dans un coin de la pièce, un respirateur artificiel pompait l'air de manière régulière. Roman s'approcha du lit, et avec douceur, il prit la main de son père, et en caressa les cicatrices, les vieilles brûlures, les éraflures et les sillons. Une main qui racontait une histoire de détermination et de labeur.
de victoires et d'échecs. Roman l'étreignit. Il espérait une étreinte en retour, mais la main demeura inerte. Nevea se plaça de l'autre côté du lit et enroula les doigts autour de la barrière. Le médecin dit qu'il faut lui parler, que les gens dans le coma peuvent nous entendre. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Roman serra à nouveau la main de son père. « C'est Rome, papa, » murmura-t-il. « Je suis là. » Mais le visage aux yeux fermés demeura impassible. « Tu comptes rester dans le coin combien de temps ?» demanda Nevea. « Je sais pas encore. J'ai laissé pas mal de choses sur le feu chez moi. »« C'est vrai que c'est là-bas, chez toi, maintenant. » Roman ignora le commentaire. « Je te posais la question parce que j'ai 6 corps à incinérer d'ici la fin de la semaine. » poursuivit Nevea. « Dante était censé m'aider, mais j'ai pas de nouvelles de lui depuis l'accident. Si on peut appeler ça un accident. »« Comment ça ?» Nevea se passa la langue sur les lèvres. « Il y a un peu plus de 2 semaines, on a retrouvé nos 2 camionnettes avec tous les pneus crevés. » Quelques jours avant ça, quelqu'un a tagué 187 à la bombe sur la porte du crématorium. Et maintenant, papa qui se fait percuter par un pick-up et qui tombe dans le coma? Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais qui pourrait lui en vouloir? S'étonna Roman. Il bosse pas franchement dans un secteur très concurrentiel. Comme il dit toujours, tant qu'il y aura des gens qui meurent, on aura du boulot. Je sais pas. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse, tu penses que tu pourrais me donner un coup de main demain? Il y a un des Maccabées qui doit faire pas loin de 300 kilos. Roman s'essuya les yeux, même s'ils étaient secs. Il avait envie de pleurer, mais c'était comme si le choc d'avoir vu son père branché à toutes ses machines avait fermé son cœur à double tour et érigé un barrage qui retenait ses larmes. « Ouais, tu peux compter sur moi, » dit-il. « Merci. » T'as pas à me remercier. » Le portable de Nevea se mit à vibrer. Elle le sortit de la poche de son jean et se tourna vers Roman. « Je reviens tout de suite. »« C'est Dante ?»« Non. » Et elle quitta la chambre. Roman toucha le visage de son père. La peau lui parut à la fois froide et humide. La paupière gauche était légèrement entrouverte, révélant un petit éclat de blanc. Roman frémit, prit une grande inspiration et rejoignit sa sœur dans le couloir. Il la trouva adossée au mur, murmurant au téléphone. Alors qu'il s'éloignait pour ne pas la déranger, il surprit la fin de la conversation. « Oui, bon, je vais essayer. T'as qu'à me l'envoyer par texto ?»« Je t'ai dit que j'allais essayer. Je suis à l'hôpital avec mon frère, on est venu voir mon père. »« Ouais, d'accord. À plus tard. » Elle rempocha son portable et rejoignit son frère. Elle arborait une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la colère, ni de l'enthousiasme. De la résignation, peut-être ? « Je vais à la maison », annonça-t-il. « Je te donne la clé alors, j'ai un truc à faire », dit Nevea. Et elle sortit son trousseau de sa poche, retira une clé de l'anneau en métal et l'attendit à Roman. Tu pourras la laisser sous le pot de fleurs, sur le porche ? Pas de problème. Mais, ça va ? Demanda-t-il. Non. Je supporte pas de le voir dans ce lit. Je supporte pas l'idée de devoir gérer le crématorium seul. J'ai l'impression de revivre la disparition de maman. Donc non, Rome, ça va pas. Ça va pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, murmura Roman en lui pressant l'épaule. Nevea lui tapota la main, avant de se dégager. « Je sais bien, » soupira-t-elle. « Ça a été une année compliquée. On croule sous le boulot. Avec la pandémie, on a été débordés et on a dû se débrouiller seul avec papa. Petit à petit, ça commence à se calmer, mais je suis toujours stressé. » Roman aurait voulu lui dire que tout allait s'arranger. Il aurait voulu lui dire que maintenant qu'il était rentré, ils allaient redresser la barre, et que cette fois, il se montrerait à la hauteur. Il aurait voulu lui dire que son grand frère était là pour résoudre tous les problèmes, mais il resta silencieux pour ne pas avoir à prononcer un mensonge. Il l'aiderait le lendemain parce que c'était la moindre des choses. Mais pour être honnête, et il savait que l'honnêteté pouvait être une qualité rare au sein d'une famille, il n'avait aucune envie de travailler au crématorium. La cendre dans les cheveux, l'odeur de chair brûlée dans les narines, ce n'était pas pour lui. Il n'était pas ingrat. Il ne crachait pas sur la vie confortable que les flammes leur avaient offerte, à lui, à sa sœur et à son frère. Mais il ne voulait pas devenir le roi des cendres. Ce titre appartenait à son père. Il perdurerait avec lui, ou il brûlerait avec lui.